présentement avec le directeur artistique du fâcheux théâtre.
Sylvain Sabatier, bonjour.
Bonjour Yasmina.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va très bien. Alors, d'où vous vient l'idée de faire du théâtre déambulatoire dans la région d'Ottawa-Gatineau?
Mais en fait, bon, Molière dans le parc, c'est pas déambulatoire, on reste sur place, c'est pas comme les Montsonneurs. Et en fait, c'est ce projet Molière dans le parc, c'est vraiment avec ce projet-là que la compagnie le Fâcheux Théâtre est née. C'est venu d'une tradition, en fait, c'est vraiment très 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 inspiré d'une tradition très anglo-saxonne, en fait, des Shakespeare in the Park. Parce que partout, dans toutes les villes canadiennes, d'une certaine taille, il y a des Shakespeare in the Park, des compagnies qui jouent des pièces de Shakespeare dans des parcs avec des moyens plus ou moins gros selon les compagnies. Par exemple, à Ottawa, il y a une compagnie qui s'appelle Company of Fools qui font ça depuis plus de 20 ans maintenant. Et quand j'ai parti le projet, je les ai rencontrés. J'ai rencontré le directeur artistique de l'époque pour lui demander comment ils avaient fait tout ça. Parce que j'aimais leur idée, ils arrivent dans un parc, il n'y a rien, puis ils s'installent. Ils sont complètement autonomes, le public arrive, s'assoit par terre, eux ils jouent le spectacle, et ensuite ils démontent et c'est terminé. Et ils vont dans plein de parcs de par toute la région, et ça permet d'amener le théâtre à tout ça. Et puis ça fait des fois des spectacles vraiment, évidemment tous les spectacles ne se valent pas, mais des spectacles vraiment vraiment cool. Il y a quelques années aussi, j'avais vu l'équivalent, si on veut, mais à Vancouver, puis c'est un festival qui s'appelle Bard on the Beach, puis ça, là c'est vraiment, quand on parle de gros moyens, là c'est énorme. Ils installent quasiment un gros chapiteau dans un parc pour tout l'été, comme le Cirque du Soleil, et ils ont plusieurs spectacles qui tournent avec, et tout est sous des tentes, mais c'est comme un théâtre, mais sous des grosses. Donc c'est vraiment cette tradition-là qui est quand même assez cool, qui fonctionne bien auprès du public puisque ça permet de voir du Shakespeare. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y aurait pas la même chose en français avec Molière? Donc c'est là que j'ai rencontré donc Scott Florence, le directeur artistique de Company of Fools, qui était aussi le fondateur de la compagnie. Donc il m'a vraiment expliqué comment ils avaient démarré. Et il a été très transparent, il nous a donné plein de conseils. Donc tranquillement, on a parti le projet comme ça et pour amener en fait le théâtre dans le quartier dans lequel on est, qui est le Vieux-Hull, qui est un quartier quand même très avec beaucoup de diversité sociale et culturelle. Donc ça veut dire qu'il y a aussi bien des artistes comme moi ou ma conjointe qui vivent là, des gens qui travaillent pour le gouvernement, qui ont pas de problème d'argent, mais il y a aussi beaucoup de sans-abri, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'immigration et tout ça. Donc c'est un quartier que je suis très attaché pour à cause de toute cette diversité là puis de me dire, ben, en passant ce spectacle là dans un parc qui est central, c'est un moment de rassemblement pour toutes ces personnes. Et c'est ça qu'on arrive à faire. On a aussi bien des fans de théâtre qui viennent nous voir tous les ans et qui vont certainement voir des pièces au CNA, à la Nouvelle Scène et tout. Et en même temps, on a aussi des personnes très très peu privilégiées du quartier qui nous voient dans le parc. Donc, ils s'arrêtent, ils nous regardent et ils viennent regarder le spectacle.
Vos pièces de théâtre sont créatives. Vous l'adaptez souvent en fonction du public qui est en face de vous. Pourquoi est-ce que c'est important de transmettre cela et pourquoi est-ce qu'il faut être créatif de nos jours pour faire aimer en fait ce théâtre-là à la plus jeune génération et puis au public qui vous regarde souvent?
Ben, déjà, c'est sûr, quand tu prends les pièces de Molière, elles ont été écrites au XVIIe siècle. C'était une autre époque. Maintenant, on est dans une société où tout va très vite. Tu sais, on a YouTube, on a les téléphones sur lesquels on est surstimulé et tout ça. Il y a 400 ans, ils n'avaient pas grand-chose. C'était surtout quand Molière était rendu à la cour, qui jouait pour le roi, pour la noblesse et tout ça. C'était des gens qui travaillaient pas, qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des serviteurs pour les servir. Donc, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Donc, la sortie au théâtre, c'était probablement l'événement de la semaine ou du mois. T'sais. Donc, quand t'arrives au théâtre, t'avais le temps d'expliquer bien les choses. Ça pouvait être long, ça pouvait prendre toute la soirée, toute l'après-midi, peu importe. C'était souvent aussi dans le cadre de fêtes organisée par ces riches nobles français. Puis ils mettaient une pièce de théâtre au milieu. C'est comme ça qu'il y a eu des ballets, des comédies-ballets aussi, mélangés théâtre et danse, parce que c'était encore plus grandiloquent, etc., etc. On est dans une autre époque, tu sais, on est tellement stimulé de fiction, on a Netflix, on peut regarder quasiment une série télé en prenant l'autobus, tu sais. Donc, on n'a plus du tout ce même rapport à la fiction, ce même rapport aux histoires. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que pour la forme des pièces, notamment, tu sais, cet été, on fait Don Juan. Don Juan est une pièce qui peut durer jusqu'à 2h30, mais tout est très... Ça prend du temps pour tout expliquer. Du temps que nous, on n'a plus la patience de prendre, et on sait déjà, parce qu'on comprend beaucoup plus les codes de l'histoire, des histoires, de la fiction et tout ça. Donc juste pour ça, il faut, à mon avis, un petit peu adapter à ça. Et aussi... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de monter Molière pour monter Molière, c'est aussi, OK, qu'est-ce que j'aime de Molière? Oui, c'est drôle, oui, c'est bien écrit, mais c'est aussi, il avait souvent un discours sur la société. Il avait une réflexion sur ses semblables, sur son époque et tout. Et cette réflexion, elle est encore très, très pertinente aujourd'hui, mais plus ou moins directement, je dirais. Selon les thématiques qu'il aborde, c'est sûr que le contexte a évolué, et donc pour que ça puisse parler à notre public, vraiment, ben je pense que ça vaut la peine de se poser la question, OK, qu'est-ce qui est, quand tu commences à travailler sur une pièce, qu'est-ce que cette pièce nous dit sur son époque à elle, qu'est-ce qu'elle nous dit sur notre époque aujourd'hui, et est-ce que ça se comprend clairement ou est-ce que ça vaut la peine de l'adapter un petit peu pour le rendre plus contemporain, en fait. Donc, tu vois, dans le cadre de Don Juan, il y a deux thématiques centrales. Tout ce qui est le rapport à la séduction, parce que Don Juan, tout le monde sait maintenant c'est quoi, c'est le séducteur, mais il y a aussi ce rapport à la foi, à la religion. Quand Molière a écrit la pièce il y a 400 ans, c'est sûr qu'on n'avait pas le même rapport à la séduction que maintenant. On n'a même plus le même rapport à la séduction qu'il y a 10 ans, avec tout le mouvement hashtag MeToo, tous les questionnements sur le consentement, etc., etc. Et tant mieux qu'on ait évolué à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il fallait se poser la question de, OK, comment est-ce que la séduction est traitée dans la pièce? Est-ce que c'est problématique avec notre façon dont on le voit aujourd'hui? Et si oui, comment on l'adapte? Et ensuite, tout ce rapport à la religion et à la foi. Molière écrit ça dans un contexte où, clairement, il parle de la religion catholique qui est extrêmement présente en France. On était dans une époque où il n'y avait pas de séparation entre l'État et la religion, donc c'était très imbriqué. Le roi était le représentant de Dieu sur Terre, là, pour la France à l'époque. Mais on n'est plus dans ce rapport-là. On est quand même dans des sociétés beaucoup plus sécularisées. Mais il y a quand même un retour de la religion, je trouve. On le voit notamment aux États-Unis, tu sais, on revient sur l'avortement et clairement les motivations, même si elles sont pas ouvertement dites, sont religieuses. C'est une certaine frange évangélique qui veut ça depuis des décennies, qui finalement est en train de réussir à atteindre son but. Donc on a ce retour de la religion. Tu sais, malheureusement, on a aussi, tu sais, beaucoup d'extrémisme religieux qui resurgissent partout dans le monde et tout, pour le pire souvent. Et donc c'était ça, de comment cette pièce-là peut nous parler aujourd'hui. Et donc quel travail d'adaptation on fait pour par exemple, tu sais, si on traite la séduction de la même façon que Molière, peut-être que ça va juste choquer maintenant et que les gens vont plus écouter le propos. C'est une genre de réflexion que j'ai eue. Bon, c'est pour ça qu'on adapte. Et ça dépend vraiment, le niveau d'adaptation dépend de la thématique et dépend de la pièce.
D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure de Don Juan, une pièce que vous jouez en fait ce mois de juin et puis dans les jours à venir. Quelle leçon vous aimeriez en fait donner au public en fait qui va vous regarder bientôt?
Ce qui est intéressant dans Don Juan, c'est qu'il y a vraiment, il y a deux personnages principaux, c'est Don Juan, puis dans la pièce originale, son valet se galère. Son valet le suit partout parce que c'est son travail et on est dans une situation où c'est quasiment de l'esclavage. S'il n'a pas le choix s'il fait pas ce que dit Don Juan, il le bat. Par exemple, ça, c'est quelque chose de problématique maintenant. On peut plus traiter ça de la même façon qu'à l'époque. Donc, moi, j'ai remplacé ça. Déjà, c'est plus un homme, c'est une femme, mais c'est son assistant personnel. Puis, il la paye bien, il la paye. Donc, elle fait bien son travail. Tout le monde, tu sais, il y a plus ce rapport de soumission qu'il y avait parce que ça ne veut plus dire la même chose de nos jours. Et c'était pas la thématique non plus de la pièce. Donc déjà on enlève ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages avancent en parallèle. Puis d'un côté il y a Don Juan qui, bon, séduit tout ce qui passe, ne vit que pour séduire, mais qui est aussi quelqu'un de très intelligent et de très athée, qui ne croit pas en Dieu. Et à l'opposé, Sganarelle, elle est très 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 croyante, très très pieuse, et elle veut essayer de convertir un peu Don Juan à faire de meilleures actions, parce que sinon il va aller en enfer. Tu sais. Donc il y a ce rapport tout au long de la pièce, de Sganarelle essaye de dire vous pouvez pas continuer à agir comme ça, c'est pas bien, vous allez. Et Don Juan qui lui dit non, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis ou quoi que ce soit. On fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que Don Juan est il est riche, il est beaucoup plus éduqué, donc il est beaucoup plus articulé, il est très intelligent dans ses arguments. Souvent, il a raison dans ce qu'il dit. Mais après, ce qu'il fait est beaucoup plus débattable. Il séduit, il ment, il manipule pour séduire ses conquêtes, comme on dit. Son comportement n'est pas bon, mais il a raison, si on veut, dans ce qu'il dit. Et à l'opposé, Sganarelle, elle a un meilleur comportement, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui agit mieux, mais tu sais, c'est un peu la peur d'aller en enfer qui l'empêche. Donc la motivation, est-ce qu'elle est noble ou pas? Et ce qui est intéressant, puis, c'est que c'est cette zone grise. Est-ce que les deux ont à la fois tort et raison dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans la façon dont dont ils agissent. Et on est tellement dans une société polarisée en ce moment, je trouve, en Amérique du Nord en tout cas, mais ça doit être partout, partout comme ça, où on a l'impression que tout est noir ou blanc. Et alors que c'est le monde réel est tellement plus compliqué, nous les humains, on est tellement plus compliqué, mais on a tendance, tu sais, si quelqu'un fait une mauvaise chose, ben on le cancel, on l'annule, tu sais, ou on essaye en tout cas, ça réussit pas nécessairement, c'est tant mieux ou tant pis, c'est pas grave, c'est pas ça que c'est pas ce qui est intéressant là, mais c'est vraiment on a tendance à voir, ok, ça c'est bien, ça c'est mal, mais souvent c'est très compliqué. Et donc ce serait la leçon de repensant à cette nuance en fait du monde qui nous entoure, que des fois il y a pas de réponse facile à une situation, des fois il y a pas de façon de juger une personne, et on est tous un peu comme ça finalement. Des fois on fait des bonnes choses, des mauvaises choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement des bonnes ou des mauvaises personnes à 100%, tu sais. Et si c'est un peu ça idéalement, évidemment, que si les gens pouvaient ressortir avec ça, de ah ben j'aime bien Don Juan mais j'aime pas son comportement, et j'aime bien Sganarelle mais je suis pas d'accord avec elle, ah c'est ce côté un peu tiraillé de le monde est compliqué, les gens sont compliqués. On l'oublie, je trouve.
Pour finir, après 2 années pandémiques qu'on a connues, qu'est-ce que cela vous fait de voir en fait le monde devant vous, de discuter, de parler, de voir les gens en fait contents de vous soutenir en fait dans tout ce que vous faites?
Ben nous, on a quand même réussi à faire des spectacles toutes les années de pandémie. C'était plus difficile au niveau de la logistique parce qu'il fallait faire des cercles dans le parc, il fallait avoir des réservations, il fallait faire en sorte de pas avoir d'attroupement et tout. Donc c'était quand même beaucoup de logistique de plus, c'est assez compliqué. Là on est revenu à une formule plus classique dans le sens où il n'y a plus besoin de réservation, il n'y a plus besoin de faire des cercles et tout, c'est les gens qui s'installent dans le parc comme ils veulent et tout, donc ça nous enlève beaucoup de travail. Et ce qui est aussi bien justement, c'est comme je te parlais du projet au début, que c'est vraiment un moment de rassemblement de tout personnes d'origine culturelle et sociale. C'est sûr qu'avec la pandémie, le fait qu'il fallait réserver, ben on perdait les personnes les moins privilégiées, qui n'ont pas nécessairement accès à Internet parce que ben ils n'ont pas forcément de maison. Tu penses à des on avait des sans-abri qui venaient nous voir, puis eux ils venaient pas nous voir quand il fallait réserver, pas réserver. C'est parce que l'information se rendait pas à eux. Souvent les sans-abri qui viennent voir le show, c'est parce qu'ils sont dans le parc, ils voient qu'il se passe quelque chose et puis ben ils viennent voir le spectacle. Puis on a eu ça samedi à la première. Une personne qui clairement elle avait pas de chez elle là, elle a été avec ses valises mais elle est venue voir le spectacle, t'sais. Puis elle est venue nous parler après pour nous dire qu'elle avait beaucoup aimé ça arrivait pas, donc c'est ça qui est cool de pouvoir revenir à cette formule complètement libre. Ça permet justement à n'importe qui d'avoir accès au spectacle, les enfants qui habitent dans le quartier, qui ont les parents qui s'occupent pas forcément d'eux, qui viennent voir le spectacle, qui viennent s'asseoir, qui regardent nos répétitions, puis qui sont là pour les spectacles aussi, tout ça puis c'est clairement des gens qui n'ont pas accès au théâtre sinon, tu sais. Les gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre, qui venaient nous voir, eux on les a eus pendant les 2 ans de pandémie aussi, mais c'est toute ce public-là moins privilégié qu'on avait perdu, que je suis très heureux qu'on retrouve en fait. Puis après on dit que c'est fini, mais c'est pas complètement fini parce que nous on a dû annuler des shows parce qu'on a eu des personnes malades, donc mais ça fait du bien un peu de se sentir quand même moins de pression sur les épaules par rapport à ça.
Sylvain, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Avec grand plaisir, merci Yasmina.
C'était vos informations présentées par Yasmina Dagri dans le cadre de l'initiative de journalisme local.